arrivons dans un endroit où on ne connaît pas trop, on recherche l'adresse de l'église et on va dans l'église et on est accueilli comme des frères et des sœurs. Alléluia. C'est ça la vie de famille de Dieu. Je n'ai pas trop d'annonces à vous faire ce matin. Vous savez que notre frère, le pasteur Alain Ray et son épouse sont en repos. Que Dieu les bénisse. Seulement, on me demande de rappeler que dimanche prochain, il y a le repas des amis de la rue. Donc, pour information, voir Timothée et Myriam, que vous connaissez déjà, ça sera pour la préparation des repas. Et le frère Stéphane William, me rappelle de vous dire que vous avez la réunion cet après-midi à 16h. Alors, je sais que vous, Annecy, vous n'êtes pas comme ça. Quand il fait beau, n'oubliez pas la réunion de 16h. Et quand il pleut, ne l'oubliez pas non plus. Parce que des fois, on pourrait dire, à juste raison, il n'y a pas de critique dans ce que je dis, croyez-moi, mais on pourrait des fois dire, oh, même pas chez nous en France, on n'a pas connu ça, mais oh, c'est la canicule. Alors, je reste au frais. Et puis, quand il pleut, c'est, oh, il pleut. Je ne vais pas pouvoir sortir, ça va me défriser. Alors, on suit le Seigneur, on essaye d'être là, pour rendre témoignage de son amour dans nos vies. C'est vrai que parfois, certains ont des obligations, et comme nous sommes très fraternels, et ça c'est sincère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, on va donc continuer, si vous le voulez bien, pour ceux qui ont suivi déjà quelques points de la vie de l'apôtre Paul que nous voyons ensemble depuis quelques dimanches. Eh bien, je vais continuer cela parce que vous avez certainement dû remarquer que chaque point de l'apôtre Paul que nous avons vu font que c'est aussi une prédication tout à fait spéciale et particulière sur chaque point. Alors, ce matin, nous allons continuer à cela. Alors, s'il y en a, je ne sais pas si c'est enregistré, ce que nous disons ensemble, si peut-être quelqu'un serait intéressé par les premiers points, ben, il suffit certainement de vous adresser à la technique au fond, et ils se feront un plaisir de vous donner les notes dont nous avons déjà parlé. Donc, ce qui veut dire aussi, ce matin, je fais peut-être un petit résumé, mais très succinct, de ce que nous avons dit, et nous allons voir ce troisième point en ce qui concerne l'apôtre Paul dans cette prise de décision qu'il a dit un jour et que nous allons lire dans Actes au chapitre simplement 21. Et nous allons lire à partir du verset 10e. C'est juste pour nous remettre le texte en mémoire et les paroles de l'apôtre Paul sur lesquelles nous avons basé ensemble cette petite étude. Voilà, je pense que vous avez trouvé Actes chapitre 21 verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Acabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici, donc il parle au nom du Seigneur, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit, « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ?» Pourtant, ça partait d'un bon sentiment. Hein. Mais voilà ce que dit Paul, n'est-ce pas ?« Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi, je suis prêt. » Non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais dire déjà ce matin que il ne faut pas arriver jusqu'à dire, et je veux le dire entre guillemets, que l'apôtre, quand il précise qu'il est prêt à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, ce n'est pas qu'il veut être un martyr, mais c'est qu'il sait que sa vie pourrait terminer ainsi. Et je précise que ce n'est pas tout à fait un martyr. Il dit, si cela devait m'arriver, et c'est ce qui arrivera, mais ça, ça sera un autre point, je le fais et je l'accepte au nom du Seigneur Jésus. Nous l'avons dit, nous l'avons souligné, l'apôtre Paul a été appelé sur le chemin de Damas pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Lui-même a dit lors de cette rencontre au Seigneur, il a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur va lui parler et lui montrer eh bien, sa volonté. Mais en même temps, l'Éternel Dieu va dire à son serviteur qui va aller dans cette rue appelée la droite où Paul s'était réfugié à Damas, et il va lui dire « Tu vas aller, tu vas prier pour lui, et je lui montrerai, vous rappelez ce qu'on a lu, tout ce qu'il doit souffrir à cause de mon nom. » Alors je ne sais pas si je vais me faire des amis ce matin, mais je suis là aussi pour apporter la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire, sans vous faire peur les uns aux autres, à vous frères et sœurs qui êtes chrétiens, que la vie d'un chrétien n'est pas une vie facile. Comme je le disais un petit peu en introduction, pas sur ce même sujet, mais je reprends la même phrase à Rumilly, la vie du chrétien, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, pas du tout. Il y a des temps de paix, et il y a des temps de combat, il y a des temps faciles, et il y a des temps difficiles. Mais ce que Dieu veut voir en chacun de ses enfants que nous sommes, c'est la fidélité et la confiance en son nom, en ses paroles, en ses promesses, au nom de Jésus. Et quand on est ainsi, eh bien, il nous donnera la force de surmonter les difficultés que nous pourrons rencontrer. Mais ces difficultés, elles trouveront leur délivrance au temps fixé par Dieu. Ce qui veut dire qu'on peut connaître des temps de joie longs, d'état de joie moins long, mais la joie que nous, enfants de Dieu, nous avons, c'est une joie qui ne doit jamais tarir, parce que c'est une joie intérieure, c'est la joie de ceux que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et ça, quoi qu'il arrive, personne ne pourra nous enlever cette joie et cette paix, parce que nous sommes héritier ou co-héritier avec Jésus-Christ de la vie éternelle. Nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Alléluia. Et l'Apocalypse nous rappelle que lorsque des livres furent ouverts, un livre particulier fut ouvert et tous ceux qui furent inscrits sur ce livre rentrèrent dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Je suis heureux, moi. Non, pas vous, je suis heureux parce que mon nom est inscrit sur le livre de vie. Et je dois tout faire pour qu'il reste inscrit sur le livre de vie. Alléluia. Quels que soient les temps que je dois passer. Il y a aussi des temps de combat qui sont plus ou moins longs. Soyons vrais. Plus ou moins difficiles. Je dirais même plus ou moins terribles. Quand, par exemple, nous perdons un être cher. Ça, on ne comprend pas toujours. On comprend plus facilement, et permettez-moi d'être honnête, on comprend plus facilement, et que personne ne se vexe, hein, quand c'est une personne qui a un âge avancé. On le comprend plus facilement, on se raisonne, même si ça a de la peine, on dit il atteint l'âge, et vous savez que Dieu fait grâce à ceux qui ont plus de 80 ans. Pour ceux qui étaient là un certain dimanche après-midi, parce que la date est fixée, le 80. Au-delà de 80, on devrait tous disparaître. Mais Dieu fait grâce. Vous voyez ? Moi, j'ai une belle maman, et bien, je suis heureux, elle a 94 ans. C'est déjà le bel âge, hein ? Voilà. Bon, elle fait plus ce qu'elle faisait avant dans sa jeunesse. C'est compréhensible. Moi aussi, d'ailleurs. Même si on croit qu'on a toujours 20 ans. Mais la nature nous rappelle qu'on en a 20 de plus ou 40 de plus, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut toujours faire confiance à Dieu. Ça devient plus difficile à comprendre la volonté de Dieu quand c'est un enfant qui disparaît, un être cher. Et là, on ne comprend pas. Mais ce qu'il y a d'important, mes frères et sœurs, c'est d'accepter la volonté de Dieu. D'accepter la volonté de Dieu. Nous sommes placés dans des situations, soyons là aussi honnêtes, que nous ne comprenons pas. Et parfois, nous pouvons poser au Seigneur des questions, dire pourquoi. Mais en réponse, le Seigneur nous dira, ne crains rien, crois seulement. Mais c'était difficile. Je te donne ma paix, je console ton cœur. Car une chose est très importante, mes frères et sœurs, c'est que ni vous, ni moi, nous ne connaissons notre avenir. Ni vous, ni moi, nous ne connaissons pas l'avenir de ceux que nous aimons autour de nous. Mais la Bible dit bien que notre avenir est dans ses mains. Et il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, mes frères et sœurs, quelles que soient les circonstances par lesquelles Dieu rappelle un être cher que nous aimons, un enfant, un mari, une femme, que sais-je, quelqu'un de la famille. Si celui-ci est converti, si son cœur est au Seigneur, nous savons où il va. Ça n'ôtera pas la peine, mais ça nous gardera dans la paix et la consolation parce qu'il sera parti avec le Seigneur. Et vous savez, je crois une chose, c'est que Dieu rappelle les nôtres quand ils sont prêts à rentrer dans sa gloire. Et pourquoi je dis les nôtres? Parce que quand on est chrétien, on ne cesse de prier chaque jour pour les nôtres, afin que Dieu les sauve. On leur parle de Jésus, on leur parle de l'amour de Dieu. Parfois ils résistent, mais sur le lit du départ, ils peuvent encore, dans les derniers moments, se réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est notre grande consolation. La parole de Dieu nous dit que nous nous reverrons un jour dans le ciel. On sera nombreux dans le ciel. Alléluia. Tout cela ne doit pas nous séparer, comme nous le disions, de l'amour de Dieu. Je crois que la direction de chaque chrétien, c'est que quels que soient les temps et les circonstances, nous devons prendre telles qu'elles nous sont citées les paroles de l'apôtre Paul, car l'apôtre Paul a connu la souffrance dans son corps, mais pas seulement dans son corps, il y a eu la maladie, il y a eu la lapidation, il y a eu les chaînes, on l'a laissé pour mort. Il a connu, peut-être qu'on le lira, mais il a connu la famine, il a connu tout ce qu'un être pouvait connaître de difficile, il a connu même des instants qui auraient pu être des moments de découragement, de crainte ou de peur, mais il est resté fidèle jusqu'au bout. Alléluia! Et ça, c'est un exemple ô combien merveilleux. Et je vous rappelle que le Seigneur Jésus, dans des circonstances particulières et par rapport à la souffrance, lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et je voudrais vous dire, entre parenthèses, et vous l'avez tous compris, que l'on peut prier pour la délivrance de quelque chose qui nous concerne, peut-être particulièrement. Mais là, je suis obligé de vous dire que Dieu n'exauce pas la prière. Oui ? Non. Il ne faut pas croire que Dieu exauce toutes les prières. Hein. Il exauce les prières selon sa volonté. Par contre, là, il n'exauce pas la prière de l'apôtre Paul, mais il lui dit, ma grâce te suffit. Continue. Ce qui veut dire, ma grâce te suffit, ce qui veut dire, je suis avec toi. Alléluia. Et je crois que dans notre cœur et dans notre pensée, il nous faut prendre cette position que l'apôtre Paul, tout au cours de son ministère, a observé. Il a même dit, et c'est écrit, je vais vous lire dans deux versets, dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est-à-dire « Je puis tout par celui qui m'a dit « Ma grâce te suffit ». Et dans une autre traduction qui est français courant, il est écrit ceci « Je peux faire face à toutes les difficultés » grâce au Christ qui m'en donne la force. Ma grâce te suffit. Alléluia. Je vois que ça vous fait plaisir. D'un seul coup, vous retrouvez tous le sourire sur vos lèvres. Ah, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Jésus marche avec moi. Tous les jours, il marche avec moi. Alors, sa grâce me suffit. Et je passerai les montagnes, les plus hautes que ce soit, des épreuves. Il sera là, il me conduira, il me gardera, il sera ma force, mon bouclier, ma délivrance. Je ne crains rien parce qu'il est avec moi. Alléluia. Bien sûr, bien sûr. Il y a ce verset qui dit, c'est le Seigneur qui le dit, il dira, ne craignez pas ce qui détruit votre corps, mais craignez ce qui détruit votre âme. Ça ne veut pas dire non plus que nous ne serons pas appelés. Dieu garde, c'est sûr, Dieu garde, et je vous souhaite joyeuse et longue vie avec le Seigneur, sans connaître de problème. Mais Dieu ne nous dit pas que nous ne pourrons pas connaître ce que les apôtres ont connu. La décapitation, la crucifixion. Il nous suffit de lire le chapitre 11 de Hébreux pour savoir ce que même les chrétiens ont connu les souffrances, mais quand ils sont allés dans les cirques là où ils sont exhibés, les chrétiens, alors, voyant ce qui se passait, les lions, les ours, les chevaux qui écartelaient les personnes parce qu'ils étaient chrétiens, ils y allaient dans la paix en chantant des cantiques. Alléluia. Leur force était en Christ. Et sur les gradins, parce que ça, il y a des écrits qui le prouvent, dans le gradin, il y a eu des conversions par rapport au témoignage que rendaient les chrétiens dans le lieu de supplice. Que Dieu nous aide. Comprenons ceci. D'ailleurs, Jésus n'a jamais caché la vérité. Jamais. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes, il a dit, les six béatitudes qui sont là, une précise ceci, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. C'est pour cela que nous avons repris le texte. Il dit bien, si je vais, je suis prêt à être lié, à mourir à Jérusalem à cause du nom de Jésus. Non pas me présenter comme un martyr ou comme un héros, étant supérieur à tous les autres. Non, si je dois donner ma vie, c'est pour le Seigneur. S'il veut la reprendre, c'est pour lui. Et je veux rester fidèle jusqu'au bout, contre tout et malgré tout. Nous sommes les uns et les autres appelés, si Dieu le veut, à connaître des temps difficiles. Pourquoi je dis si Dieu le veut? Parce que dans la Bible, il est parlé d'un exemple que je vais vous citer. Parce que l'apôtre Paul, quand on lit sa vie, elle n'a pas été vraiment facile. Et peut-être vous êtes en train de penser, de dire, bah, si c'est ça la vie du chrétien, oui, c'est ça la vie du chrétien. C'est avoir des temps de joie, des temps de combat, des temps de paix avec le Seigneur, des temps de consolation, des temps de victoire, alléluia, de voir des fruits de l'Esprit se manifester par le service que nous accomplissons. C'est formidable, alléluia. Mais il y a d'autres exemples, je vais prendre un exemple que vous connaissez tous, et un petit peu par rapport à ce que je viens de dire. Qui n'a entendu ou jamais entendu parler de Job? Job. Job, c'est comme Paul, hein, c'est un homme de la même nature que nous. On est bien d'accord? Et Job, c'était un serviteur fidèle. Il aimait Dieu, il priait Dieu tous les jours, il priait pour ses enfants, il priait pour tout ce qui l'entourait, et il nous écrit qu'il avait la crainte de Dieu, et Dieu le bénissait. Quand on lit le livre de Job, les premiers chapitres, je ne sais pas vous, mais on est quand même émerveillé. Dieu bénissait sa famille, son cheptel, tout ce qu'il entreprenait, Dieu bénissait. Alléluia! Je vous fais remarquer, entre parenthèses, qu'il était quand même écrit que ceux qui font la volonté de Dieu aujourd'hui, Dieu les bénit, il est même écrit, et tout ce qu'il entreprendra réussira. Dieu ne change pas parce qu'il a dit la même chose à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, car tout ce que tu feras réussira. Et il a été un conquérant, Josué. Oui, avec une grande responsabilité, puisqu'il a pris la relève de Moïse. Et il a mené le peuple jusque dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Et pour nous, le pays de Canaan, c'est pas du côté d'Israël, mais c'est dans les cieux. Amen. Alléluia. Alors Job, était un homme heureux. On est bien d'accord. De beaux enfants, de belles filles. Déjà, dans le premier texte, elle s'est écrit un cheptel incroyable. Et puis voilà qu'un jour, Satan, vous relirez ça dans Job, hein, vous connaissez, Satan se présente devant Dieu au milieu des anges. Et il va interpeller Dieu, ou plutôt Dieu va l'interpeller, et il va dire, « As-tu vu mon serviteur Job ? Tu as vu combien il me sert, combien il me suit ?» Et Satan qui, excusez l'expression, mais je vais le dire, n'a pas sa langue dans sa poche parce que c'est un rusé. Et il sait se servir et manipuler sa langue pour... Et il va lui dire à Dieu, « Oh Dieu, mais c'est normal. C'est normal que tu le... qui t'adore, qui te loue, qui... Mais tu es constamment en train de le bénir. Alors comment veux-tu qui... Facile !» Alors Dieu a dit à... Et c'est là que l'on voit que la volonté de Dieu s'applique. Et il va dire à Satan, écoute, envoie-lui les épreuves que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Et quand vous lisez bien le texte, quand il dit à sa vie, ce qui veut dire, sous-entendu, ne touche pas à lui ôter la vie. C'est ça qu'il veut dire. Mais il n'a pas dit, ne lui envoie rien sur son corps. Faites bien la différence. Alors Satan est parti, elle a commencé par lui enlever ses fils et ses belles-filles qui étaient réunies. En un instant, tout a été disparu, tout est mort. Après, tous ces cheptels, et là je résume, tous ces cheptels, les ânes, les chameaux, tout ce qu'il avait, des brigands sont venus, ils ont tué les serviteurs de Job et ils ont tout emporté. Waouh ! Ça fait une vague, ça fait deux vagues, et Job était toujours là. Troisième vague, voilà qu'il est atteint d'un ulcère des pieds jusqu'à la tête. À un tel point qu'il est dit que pour se soulager, il avait un tesson de verre et il se grattait avec le tesson de verre. Oh. Troisième vague, quatrième vague, parce que le diable il se sert de tout ça pour essayer de nous désarçonner. Sa femme qui arrive et qui connaît sa foi, va lui dire, et qui connaît les résultats d'un manque de foi, et elle va dire, « Maudit Dieu et meurt !» Dites donc, il a été attaqué dans tous les côtés de, son, de sa vie, de sa, le moral, le physique, les biens qu'il avait, les sentiments, les affections pour ses enfants. D'un seul coup, tout a été balayé. Entre parenthèses, peut-être qu'il aurait pu se révolter. Non. Non, il aurait pu, je dis bien, il aurait pu. Parce que peut-être, nous, si nous étions placés dans le même cas, est-ce que nous aurions la même réaction que Job ? Parce que Job, lui, il nous enseigne drôlement. Il va dire, par exemple, ceci. « Nous avons reçu, dit-il à sa femme, nous avons reçu de Dieu ce qui est bon, nous pouvons aussi recevoir ce qui est mauvais. » Quand les enfants ont été pris, eh bien, il va dire, Dieu a donné, Dieu a béni, que le nom de l'Éternel soit béni. Formidable. Et alors, ça ne sert à rien, parce que quand on continue le texte de Job, on s'aperçoit qu'il est écrit dans le verset, il dira, il est écrit ceci, « Et en tout ce que Job a connu, il ne permit pas à sa bouche de pécher contre l'Éternel. » Alléluia, pour cet exemple. Oui, non ? Et puis, ensuite, dans ses souffrances, alors, quelque temps après, il est arrivé trois amis, on va passer vite fait dessus, les trois amis qui ont essayé de le conseiller, de lui dire, etc. Lui aussi a cherché à comprendre, et puis, arrivé à peu près au milieu du livre de Job, on s'aperçoit que Job va exprimer cette phrase, qui prouve qu'il n'a pas changé dans sa position de foi, et de crainte vis-à-vis de Dieu. Il va dire ceci à tous ceux qui sont autour de lui, « Je sais que mes yeux le verront un jour, et pas un autre. » Quelle foi ! Et il est encore dans la souffrance, il est encore avec ses ulcères, il est encore avec ses douleurs, mais il dit, « Je sais que mes yeux le verront un jour. » Et il parle de l'Éternel. Alléluia. Et puis un jour, vers la fin, il dira, « J'avais entendu parler de toi, en parlant de Dieu, et il ajoute derrière, là il est revenu dans une présence extraordinaire. Et là, il y avait la grâce de Dieu qui lui suffisait, qui le soutenait. Et il dira, mes yeux, mais maintenant, mes yeux te voient. Il n'était pas encore dans la présence de Dieu, mais il voyait la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, le secours de Dieu, les forces que Dieu lui a renouvelées, les enseignements que Dieu lui a donnés, car il faut relire tout le livre de Job, et là on n'a pas le temps. Et quand il a exprimé ces paroles, alors il nous est dit que dans les temps à venir, eh bien, Job a été doublement béni de la part de Dieu. Il a eu à nouveau des filles, il a eu à nouveau des gendres, il a eu à nouveau des cheptels, par la grâce de Dieu. Et il nous est dit qu'il vécut rassasié de jours. Ça vous fait pas plaisir, ça? Merci au fond. Amen. Rassasié de jours. Si au milieu de la tempête, on avait pu aller pour trouver Job et lui dire, alors comment tu te trouves? Peut-être qu'il nous aurait étonnés. Hein. Et rien que d'en parler, il nous étonne. Il n'a pas failli dans sa foi et dans sa confiance en Dieu. Permettez-moi de dire qu'il est passé à la moulinette, mais il n'a pas branché. Tout comme l'apôtre Paul. Que rien ne vienne me séparer de l'amour de Dieu. Et là, si vous continuez le texte de Paul, vous verrez que ni la vie, ni la mort, etc., etc., ne viennent me séparer de l'amour de Dieu. Je suis attaché, je suis lié à Dieu. Dans le psaume 37 et verset 28, il est dit ceci, Bible du Sommeur, « Car l'Éternel aime qu'on suive le droit, et ceux qui le servent ne seront jamais délaissés par lui, ils seront gardés éternellement. » Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, verset 28, parole vivante, « Puisque c'est un royaume inébranlable que nous sommes sur le point de recevoir, attachons-nous fortement à la grâce qui nous est faite et témoignons à Dieu notre reconnaissance en le servant de la manière qui lui est agréable, dans la soumission respectueuse et la crainte de lui déplaire. Mais soyons fidèles à lui jusqu'au bout. Contre tout et malgré tout. Apocalypse chapitre 2 verset 10b dit ceci, parole vivante, reste fidèle jusqu'à la mort. Même si ta foi devait te coûter la vie, et je te donnerai la vie comme un prix de victoire. Alléluia. Et ça, l'apôtre Paul l'avait bien compris, juste en parler un peu aujourd'hui, mais quand Paul va parler à Timothée, il va lui dire, « Et je sais que la couronne de la vie m'est réservée. » Paul a été un serviteur fidèle et merveilleux devant la présence de Dieu. Et il a été ce serviteur qui a comblé eh bien, le Seigneur de joie. Alléluia. Mais ça n'a pas été facile. Mais il est resté fidèle. Non. Dans un autre passage, il est même dit que l'apôtre Paul, et je crois que je vous l'ai déjà cité, mais permettez-moi de vous le rappeler, qu'il a eu des soucis. Alors là, je suis étonné quand je lis ce verset. Je ne sais pas vous, mais quand même. Alors, avec tout ce qu'on vient de citer, en ce qui concerne Paul, vous savez qu'un jour, il a même failli périr dans un naufrage. Hein? Mais que là, dans ce naufrage... Eh bien, un ange de l'Éternel lui est apparu dans la nuit pour lui dire, ne crains pas, tu ne vas pas périr, seul le bateau périra, seul le bateau sera détruit, mais toi tu ne périras pas, ni tous ceux qui sont avec toi sur ce bateau, ne crains pas, prends courage. Alors, quand on entend de telles paroles alors que nous sommes en pleine tempête, qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir, mais vers qui se tourner, et d'un seul coup l'ange de l'Éternel descend, et pour nous c'est Jésus-Christ, alléluia. Et il nous rappelle ses paroles. Et il nous dit, ah oui, tu es dans la tempête. Et je le sais, peut dire le Seigneur. Mais lui dit, ne crains pas. Prends courage. Alléluia. Et que se passe-t-il?
Parce que là aussi, il faut un petit peu réfléchir quand on lit. C'est bien de lire, mais il faut essayer de recevoir un enseignement. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire alors que tout le monde était prêt à se jeter à la mer? Déjà, il y en a qui avaient mis la barque. Et Paul a dit, restez ici, autrement vous périrez. Ah! Et Paul va quoi faire?
Il va encourager ces païens qui étaient là. Il faut appeler les choses par leur nom. C'était le seul chrétien. Au milieu de soldats, de matelots aguerris, prêts à sauter, prêts à faire n'importe quoi. Il lui dit, non, ne sautez pas, restez là. Le Seigneur m'a dit cette nuit qu'aucun de vous ne périrait. Dites donc qu'il est en train de les encourager alors que la tempête fait rage. Et si vous n'êtes jamais allé dans une tempête, je comprends que ça vous laisse stoïque. Mais pour ma part, moi qui étais dans un gros bateau, dans une tempête où les vagues faisaient 7 mètres de haut, je peux vous dire que là, vous pensez, qu'est-ce qui va arriver? Oui, parce que ça monte, on se croirait, vous savez, dans les bateaux des fêtes foraines. Waouh, ça monte, ça redescend en arrière. Et là, alors, dans le bateau, c'est en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous essayez de monter les escaliers pour aller à l'étage supérieur, pour essayer de prendre un peu d'air, parce que vous êtes fermé, les écoutilles sont fermées, il n'y a plus rien qui se fait. Vous êtes dans une noix. Et vous n'avez que faire confiance à Dieu, parce que quand ça m'est arrivé, j'étais... colon, je revenais d'Embrun, pour ceux qui ont entendu parler de la colonie de ZDD, Embrun, directeur, monsieur Marcel Le Filat. C'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais quand on revient de vivre 45 jours dans la présence de Dieu, parce qu'on fait des choses merveilleuses, même en colonie avec le Seigneur, eh bien, vous êtes dans le bateau. Vous êtes dans la tempête, vous trouvez avec les camarades, les collègues, les amis, les jeunes comme nous, de prier le Seigneur. Mais quand même, c'est impressionnant, vous essayez de monter une échelle, vous levez le pied, vous essayez de redescendre, vous avez l'impression que l'échelle, elle s'en va sous votre pied, elle n'y est plus. Ben oui, ça vous prend quand même quelque part aux entrailles. Mais le lendemain, merci Seigneur, les écoutilles furent ouvertes, le soleil était là. Et j'avais eu la force, par la grâce de Dieu, je dis par la grâce de Dieu, d'apporter un petit peu le café à ceux qui avaient envie de boire le café sur le pont, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur le pont. Hein, alors, et l'apôtre Paul l'a connu ça, mais il a dit, ne craignez pas, le Seigneur m'encourage et vous encourage à rester sur le bateau et attendre la délivrance. Et en fait, Dieu a honoré sa parole, puisqu'aucun des marins n'a péri. Et que tous arrivèrent sur le village. Alléluia. Et puis là, on continue un petit peu. Eh bien, l'apôtre Paul y était en pleine fervent. Il faisait froid quand même. Là, l'eau était froide. Alors, ils ont décidé de faire du feu. Et l'apôtre Paul, qui a été épargné de la tempête, va chercher des brindilles. Il amène la brindille près du feu. Et quand il est près du feu, un serpent venimeux le pique. Tout le monde s'attend à ce qu'il meure. Il est resté vivant. Et si un serpent ou si vous absorbez du poisson, soit par la bouche, soit par une piqûre, ça ne vous fera pas de mal. Bon, toute proportion gardée, c'est une expérience que Paul a vécue, il n'y en a pas eu d'autre. Tout ça pour vous dire, ne rentrez pas chez vous ce à midi, en guise d'apéritif, ne boivez pas de la ciguë, parce qu'on viendra faire votre enterrement. Hein. La sagesse fait partie de la vie du chrétien. C'est pas parce qu'il est écrit que Dieu nous garde de tout que nous devons faire n'importe quoi. Parce que Dieu ne marche pas dans ses affaires. Alors l'apôtre Paul, lui, il a vécu ainsi cette vie et il a remporté la victoire céleste. Il y a encore des choses à dire, mais laissons le Seigneur nous et nous-mêmes nous pencher sur la vie de l'apôtre Paul. Et voir comment Dieu l'a aimé, l'a béni. Parce que on parle de l'apôtre Paul, j'ai parlé de Job. Mais j'aurais pu aussi vous parler, je l'avais aussi là dans mon cœur, de vous parler de David, mais ça prendrait trop de temps. Mais David, ça a été un roi pour Dieu extraordinaire. Il est dit de lui qu'il était selon le cœur de Dieu. Mais quand vous lisez la vie de David, lisez-la bien. Dès son enfance, dès son adolescence, il a connu des problèmes dès son jeune âge. Le premier qui a essayé de le supprimer, c'est le roi Saül, avec sa lance. Pourquoi ? Parce qu'il chantait des cantiques à la gloire de Dieu. Et si vous continuez, vous allez avoir que David a eu une vie de combattant. C'était le général des armées. Mais il n'a pas eu que ça. Il n'a pas eu qu'à défaire de ses ennemis. Il a eu ce que l'on appelle des attaques intérieures. Et par qui ? Principalement par ses enfants qui voulaient prendre le pouvoir et qui en fait se sont entretués les uns et les autres. Mais quelle vie, David ! Et pourtant, il est resté fidèle jusqu'au bout. Alors, peut-être quelqu'un pourrait dire, et je terminerai par là, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais David, c'est bien gentil ce que vous dites, mais moi j'ai lu dans la Bible qu'il a fait une bêtise, hein ? Il a fait une bêtise. Je suis d'accord avec vous, il a fait une bêtise. Est-ce que je peux vous poser une question ? Devant votre oui collectif et chaleureux, qui a succédé à la royauté de David sur le peuple d'Israël? Vous dites Salomon. Alors là, vous avez bien répondu. La prochaine fois, j'apporte une boîte de choupa choups. C'est tous ceux qui ont bien répondu. Je leur donnerai la sortie un choupa choups. Il faudra me le réclamer. Ben, n'y comptez pas trop parce que des fois, j'oublie. Hein. Maintenant, la deuxième petite question, parce que les questions, des fois, moi, c'est comme à la SNCF. Une question peut en cacher une autre. Mais Salomon, c'est le fils de qui ? Oui. Ça vous parle, ça ? Bathsheba, c'était qui ? La femme d'Uri. Tiens donc, c'est l'enfant illégitime qui règne. Ça vous... Non ? Rien ? Ben moi là, je vois toute la miséricorde de Dieu et tout le pardon de Dieu, parce que dans le psaume 51, nous assistons à la prière de repentance de David. Ce n'est pas les fils légitimes qui ont régné. Ils se sont jalousés, ils se sont entretués, tout ça pour prendre le pouvoir. Mais Dieu avait un plan. Et même si le plan est contraire à la volonté de l'homme, quand on est enfant de Dieu, c'est toujours la volonté de Dieu qui prime, à condition de l'accepter. Alléluia. Alléluia. Mais, et je termine après, mais je suis en même temps obligé de vous dire que Salomon, parce que si je m'arrêtais là, ça ne serait pas complet, si Salomon n'avait pas péché, et quand est-ce a-t-il péché ? Dans le temps de sa vieillesse. Ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'aucun manuscrit, et qu'on ne peut pas supputer non plus, on ne peut pas affirmer que Salomon soit dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il a ouvert des temples aux idoles, parce que pour faire plaisir à ses femmes, il est allé adorer avec elles les faux dieux dans les idoles. Il a mis en oubli ce que Dieu a dit dès le départ à toute royauté. Et ils avaient là un petit... Chaque roi qu'il prenait, il avait, je n'ai plus le nom, ici, une portion de la loi dans laquelle il commençait par écrit « Et tu adoreras et tu honoreras ton Dieu seul. » Salomon a mis en oubli de sa vie l'Éternel. Pourtant, il a fait de grandes choses pour lui. Alors, je terminerai en vous disant, frères et sœurs, soyons fidèles. Soyons fidèles jusqu'au bout. Contre tout. Malgré tout. Quand tout va bien, vous avez le droit de dire Alléluia, hein, quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est bien. Quand tout va mal, vous me rassurez là. Alléluia. Je vois rien venir. T'occupes, je m'occupe tes affaires. Amen. Le tout, c'est de lui rester confiant et fidèle, de ne pas se séparer de lui, de lui rester attaché. Et puis un jour, alors, nous rentrerons dans la plus belle des demeures possibles qu'il soit. Sur la terre, il n'y en aura jamais une comme celle-là, c'est dans la Jérusalem céleste. pour y vivre toute l'éternité. Et sachez que dans ce lieu-là, il n'y aura plus de larmes, plus de soucis, plus de problèmes. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de soucis, mais je ne vous ai pas demandé pourquoi il a eu des soucis. Hein. Paul. Parce que... Ouais, c'est pas ça le souci. Ça, c'était son plaisir. Mais je vais vous dire, et puis après je m'en vais parce que je ne voudrais pas que vous vous mettiez en colère contre moi. Il a eu des soucis, et il s'est écrit noir sur blanc, par rapport aux soucis que toutes les églises lui donnaient de connaître. Ce n'est pas les choses extérieures qui lui ont fait du souci. C'est les églises. C'est les frères et sœurs. Ils ont donné du souci. Ils ne voulaient pas accepter. Ils se rebellaient. Ils réfutaient. Ah, combien ça a été difficile. Mais il a mené le combat de la foi. Et le résultat positif, il a été là. Alors, frères et sœurs, soyons de ceux qui demeurent fidèles à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et devenez, pour tous ceux qui vous entourent, un rayonnement de joie et de paix. Et si nous partageons parfois, parce que cela peut arriver, des temps difficiles, si nous les partageons, ça sans dire à ceux qui nous écoutent, mais tu sais, en tout cela, Dieu est souverain. Il me donnera de voir sa gloire et sa puissance. Restons en paix, soyons en paix, et que la gloire de Dieu se manifeste à l'honneur de son nom. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous disons merci Seigneur pour ta parole.